I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors cadre à la rencontre des intervenants du certificat de développement durable de la chaire IFM Kering. Pour la deuxième année consécutive, l'Institut français de la mode, école internationalement classée parmi les meilleurs de cette discipline, propose aux étudiants de master d'obtenir un diplôme additionnel après avoir planché une année sur des cas pratiques. Il peut s'agir de challenges concrets rencontrés par des marques en transition, comme cette année Messica, Chloé ou encore Isabelle Marant, de projets d'ONG, comme Reprise ou Itinérance, ou de marques en propre, portées par les étudiants eux-mêmes à l'issue de leur cursus. J'ai eu la chance de suivre ces projets et leurs résolutions, ainsi que d'échanger avec les élèves et le jury composé de membres d'exception. Il est fascinant de voir que sur ces bancs, les rôles sont presque inversés. Les marques de luxe sont à l'écoute des jeunes porteurs de solutions dont les convictions écologiques sont chevillées au corps et constituent un véritable moteur pour relever les défis industriels. Parce qu'affronter une crise, c'est plus facile quand on coopère, petite leçon d'intelligence collective dans Onward Fashion. Bonne écoute ! Riccardo Bellini, CEO de la marque Chloé.
We started a big rethinking 2 years ago on the very mission of the company and the role of sustainability within this mission. So we moved towards a purpose model. We place sustainability at the core of everything we do, now at the strategy, the operation. This led to the joining of Gabriella. And Gabriella has been an incredible accelerator of the strategy, showing how powerful and how fast a company can move towards a sustainability agenda when your creative directors and your management are fully aligned to achieve the challenge, often because many of the sustainability challenges truly lies on the design desk. No? So we have been progressing a lot. We are not perfect. We are freaking trying, as Gabby would say, you know. But great progress and great response also from the market. She has a very committed and accountable approach, which makes it very effective. This year we challenged them with the project around circularity and resell, so secondhand. Which is a key challenge we are looking at, of course, is about the life cycle of the project. So on one side, we are working a lot on reducing our footprint on what we do, on increasing what I call our handprint in the way we do things by creating so positive social impact. No? We still haven't really cracked, how we're going to make sure that whatever we do actually enter into a circular model. No? And many companies have been doing a lot of progress in this. No? We see resale business, rental business. We saw a lot of circular model coming through. No? It was interesting to get a perspective from students about how to approach the circular challenge in a way which is truly true to us and innovative at the same time. Yeah, I think it's not just as compatible, I think it's going to be a key source of extra value that before was not existing. And I think it's going to be a key source of consumer trust and loyalty at the same time. No? So you can look at it from a pure business point of view of saying there is a piece of values of a new, call it economy, call it circular economy, that we did not exist before because the process was very linear before. But I think there's going to be also more and more a request coming from consumer of expecting this to happen from the brand. If I spend lots of money, either I keep it forever and then you repair it for me, you keep it for me, or I need to have the possibility to re-put it in the system. And I think brands will need to have an answer on that.
Une étudiante ayant pris part au challenge de la marque Chloé.
Alors, notre projet, on devait créer une stratégie circulaire pour la maison Chloé. Et donc, on devait vraiment réfléchir qu'est-ce qui s'est passé déjà dans l'industrie et comment mettre au jour une nouvelle stratégie pour finalement... ajouter à la maison. La circularité est une question des vêtements en deuxième main. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser les vêtements qui existent déjà et surtout avec les marques très grandes avec beaucoup d'influence. Alors, je pense que c'est le deux. Je pense que le futur de la mode est la circularité et de plus avec la communication en développement durable, c'est vraiment important pour les consommateurs, je pense. Oui, avec notre recherche, on a trouvé que même si les clients plus âgés sont intéressés parce que ce concept est plus grand que juste la mode et Gen Z, bien sûr, la génération va acheter la luxe bientôt et ça, c'est vraiment un souci. Alors, on ne sait pas encore. On espère qu'on a... porter quelque chose avec valeur, mais on va discuter plus avec le CEO et on verra.
La jeune marque Charlotte Müller Yoga.
Alors, on a présenté un prototype de yoga sans matière plastique. Aujourd'hui, les tenues de yoga et de sport en général incluent toutes à minima de l'élastane. Parfois, c'est un mélange avec de matières naturelles, mais la plupart du temps, ce sont des matières exclusivement à base de plastique fait sur du pétrole. Et nous, on voulait retirer ce plastique à base de pétrole et trouver un vêtement technique, proposer un vêtement technique avec une composition qui soit optimale et qui permette la même élasticité, mais sans pétrole. La raison pour laquelle je voulais me débarrasser du plastique, c'est que c'est très lié à mon histoire personnelle. J'ai été diagnostiquée il y a plusieurs années d'une première maladie hormonale et puis l'année dernière, avant de candidater à l'IFM, d'une seconde et qui est exacerbée par les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, en fait, le Guardian a publié un article qui révèle qu'on a tous, absolument tous, des microplastiques dans le sang. Et donc, ce n'est pas seulement une question de protégeons la planète, parce que parfois, ça peut sembler être un sujet et un souci un peu distant quand on ne vit pas à côté d'un champ de vêtements qui est non recyclable. Ce n'est pas seulement la planète, c'est aussi notre santé. Les plastiques, les matières synthétiques qu'on porte, rejettent plus de microplastiques dans l'air quand on porte le vêtement, donc dans l'air qu'on respire en portant ce vêtement, que dans l'eau usée de la machine à laver quand on le lave. Donc, c'est d'abord un sujet de santé publique. Alors le challenge dans la partie design, c'était qu'aujourd'hui, les vêtements de sport, les vêtements techniques sont conçus sur la base de textiles dont les coutures et la composition va permettre d'assurer une élasticité. Or nous, en retirant ces composants synthétiques à base de pétrole, on perdait nécessairement en élasticité. Donc il a fallu retrouver cette élasticité à partir de matières naturelles. Donc quand on pense à matières naturelles, on va penser au coton ou au lin. Et je vois de temps en temps des leggings en coton et on nous fait croire que ça peut être élastique. Ben non, si un legging est élastique en coton, ça veut dire qu'il y a de l'élastane dedans, donc du pétrole. En revanche, on peut aller vers une matière qui est naturellement élastique comme la laine et y ajouter ce que nous on a trouvé, ce qui a été tout l'objet de notre recherche et de notre développement, un biopolyamide à base de plantes, qui n'est absolument pas à base de pétrole, mais qui permet d'ajouter cette élasticité, ce confort, tout en ayant un vêtement qui est zéro plastique à base de pétrole. Alors, le challenge de la production, il est lié directement à l'innovation technique qu'est ce legging. La machine à tricoter qu'on a, nous, ici à l'IFM, est faite par le même fabricant celle qui nous est disponible pour tricoter un legging qui soit donc une maille de laine, mais qui soit aussi fine esthétiquement que la maille à laquelle on est habitué quand on porte des vêtements de sport. Donc, c'est vraiment une maille qui est très, très, très fine, mais cette machine qui permet de tricoter aussi finement n'existe que depuis un an. Donc c'était une vraie innovation technique, notre produit, c'était une vraie recherche. Elle n'existe que depuis un an et il n'y en a aucune en France. Il y en a une seule au Portugal. Donc le challenge, c'est déjà de trouver un peu de place sur sa ligne de production, parce qu'elle est évidemment très demandée. Et ensuite, d'avoir suffisamment de temps machine pour pouvoir produire suffisamment d'unités pour ne pas être en rupture de stock perpétuelle. Alors, sur les teintures, on a travaillé pour effectivement réduire l'impact de la pétrochimie en allant chercher des méthodes qui soient plus naturelles. Donc, on a sélectionné trois méthodes. Une qui est liée au chanvre, et donc c'est un processus de teinture qui utilise une mécanique à partir de la plante du chanvre. Deux autres qui sont directement en lien avec la consommation d'eau et réduire la consommation d'eau et faire plutôt une teinture par pression. Et donc toutes ces teintures ont toujours des limitations en termes de colorimétrie. Et j'ai beaucoup de chance parce que l'ADN de ma marque et la charte graphique de ma marque, toute la couleur de ma marque s'approche de ces teintures qui sont plutôt dans les couleurs terracotta, brune, rosée. Donc ça fonctionnait bien pour moi.
Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Écoutez, l'ensemble des projets a retenu mon attention. Parce qu'il y avait une grande diversité, le tout premier déjà, qui, avec l'idée de finalement de trouver un substitut à l'élastane ou à ses fonctions, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet. Et ce que j'ai apprécié dans ce projet en particulier, c'est le fait qu'il a mixé une approche d'usage, une approche marketing et une approche technique ou technologique, avec en particulier cette idée du twist du fil, enfin une technologie dédiée par ailleurs, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Mais je pourrais les prendre un par un. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, y compris par exemple pour le packaging en aluminium, en bijouterie joaillerie, y compris tout ce projet consistant à soutenir, à réunir les artisans du pays du pourtour méditerranéen. Et en plus, j'étais d'autant plus sensible que je suis un militant euro-méditerranéen de longue date. Et c'est le dernier projet qu'on a vu, donc avec tout ce projet, enfin, toute cette initiative de upcycling avec à Antony, donc avec les réfugiés complètement impliqués, etc., etc., et de plus en plus de technicité. Donc on peut en prendre d'autres. Je pourrais les prendre un par un, y compris pour les vêtements de sport. Et là aussi, là où on s'y retrouve de l'upcycling. Et y compris, non, j'ai envie de tous les dire, de les citer tous, y compris bien sûr pour Chloé, pour Isabelle Marant, pour Balenciaga. Non, c'est des projets formidables. Vous savez, les projets en développement durable, ils sont ce qu'on en fait, ce qu'on veut qu'ils soient. Donc, il faut les prendre un par un. Mais là, avec les marques en elles-mêmes, il y a une application directe. Mais on voit à chaque fois aussi qu'il y a des reprises de projets existants, qu'il y a des approfondissements. Donc le développement, il va se faire par la volonté des protagonistes, des acteurs du projet, qui vont parfois passer la main à d'autres étudiants de l'IFM, de la génération future. Ça va s'y greffer naturellement, parce que d'ores et déjà, les designers s'y intéressent de plus en plus. Bon, je pense à Marine Serre en particulier. Et notamment avec tout ce travail aussi d'upcycling à partir des tissus. Non, je ne crois pas à tout ça, parce que je pense que ça va transformer, ça va contribuer à innover. Mais je dirais que la caractéristique des marques qui sont présentes dans les défilés, c'est précisément des marques de création qui sont extrêmement attachées au savoir-faire. Alors ça va dépendre des cas, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, la créativité est extrêmement présente. Il y a un attachement, une dimension émotionnelle aussi, donc importante. Et on sait par ailleurs que si on regarde le marché de la seconde main, que les produits qui sont liés à une marque de création ont des prix qui diminuent guère, qui parfois d'ailleurs augmentent dans certains cas. Donc ça renvoie à la question de la durabilité. Et moi, je pense que la durabilité, elle est souvent traitée sous l'angle de la robustesse. Mais il n'y a pas que la robustesse, il y a aussi la combinaison du physique et de l'émotionnel. Mais au-delà de ça, genre l'attachement et la qualité, la haute qualité. Donc je pense que ce qui importe, c'est la haute qualité et l'image de création qui est liée à la haute qualité. Nonobstant, toute l'économie circulaire rentre de plus en plus dans notre environnement et partout et dans la Fashion Week. Et nous, on va veiller à ce qu'elle imprègne de plus en plus la Fashion Week.
Une étudiante ayant pris part au challenge pour Itinérance Méditerranée.
Donc la problématique, en tout cas le besoin d'Itinérance, c'était d'être accompagnée dans la clarification de son offre. Donc comment une association peut se professionnaliser et aller vers une stratégie en fait, de croissance pour pouvoir survivre dans un monde où il faut quand même générer du profit, mais construire ce profit de manière à nourrir la mission sociale. Donc le challenge a été de garder cette identité autour de la mission sociale, de l'expliquer aussi très clairement à des gens qui sont des business leaders aujourd'hui de l'industrie, et ensuite de faire cette stratégie à 3 ans qui permet ensuite d'aller voir des investisseurs et de lever des fonds. Donc aujourd'hui, Itinérance, c'est une association qui a pour but de mettre en relation les acteurs du changement, de l'industrie, de la mode et du luxe, et ces communautés de femmes invisibles et encore isolées aujourd'hui du bassin méditerranéen. Donc ces femmes, elles ont un savoir-faire, un geste technique et expert sur le textile. Et le but d'Itinérance, c'est d'aller le mettre en avant, de le rendre visible, de créer un réseau et de pouvoir ensuite créer cet écosystème qui va leur générer des revenus additionnels et créer des collaborations auxquelles aujourd'hui elles n'ont pas accès de par leur situation isolée et aussi bien géographique que sociale d'ailleurs. Alors comment mesure-t-on cet impact social positif ? On a 3 indicateurs clés en fait. Le premier, ça va être justement ces opportunités business et ces revenus additionnels. Donc là, très simplement, combien de revenus sont générés par artisan et par famille d'ailleurs. Le deuxième, ça va être le niveau de vie. Donc là, c'est simple, on se base sur des bases de données publiques comme l'OCDE ou alors Wage Indicators, qui sont des bases de données publiques qui nous permettent de mesurer ça concrètement au local. Le troisième, alors là, c'est pas le moins essentiel du tout, c'est la partie mentorship et formation que Itinérance va apporter aux communautés d'artisans en leur apportant du coup cette pédagogie sur les problématiques de sustainability, de développement durable. Elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font et pour autant, elles ont déjà cette démarche. Donc, c'est leur faire prendre conscience de ça et en même temps les former pour qu'elles poursuivent dans cette direction. Le deuxième volet, c'est effectivement cet aspect co-design, donc beaucoup plus sur la création. Comment on échange en fait des gestes experts pour master goal, c'est d'éviter l'appropriation culturelle et évidemment avoir vraiment cette préservation de leur technicité tout en leur apportant aussi autre chose. La prochaine édition et la prochaine destination, c'est le Maroc avec des femmes qui font de la coloration végétale naturelle. Donc il y a déjà un voyage prévu au mois de juin. Puis des expositions, notamment au MUCEM, qui seront organisées à la rentrée en septembre, avec toujours autour de ce concept de co-création entre les femmes artisanes et donc Caroline, la directrice artistique de Itinérance.
André-Anne Lemieux, directrice de la chaire Sustainability IFM Kering.
Aujourd'hui, on est réunis pour un bel événement, un grand événement. C'est l'accomplissement de tout le travail des étudiants qu'ils ont fait dans le cadre du certificat Fashion Sustainability de la chaire. Et aujourd'hui, les étudiants présentaient le fruit de leurs travaux, le projet à contribution, donc où ils démontrent qu'ils participent à la transformation de l'industrie. Voilà, on a différents types de projets qui sont présentés. Sur les 10 projets, on a à la fois des projets sponsorisés, j'ai envie de dire, par des marques telles que Chloé ou Balenciaga, mais on a aussi des projets d'associations, donc comme itinérance, comme reprise. Reprise, c'est quand même pour moi une continuité, puisque c'est une association qui a été fondée par des étudiants l'année dernière, qui a été reprise cette année. Et puis, on a aussi des projets entrepreneuriaux tels que Charlotte Muller sur le zéro plastique yoga. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adresser les sujets de demain avec un écosystème représentatif aussi de la mode de demain, avec les différents sujets allant de l'économie circulaire aux impacts sociaux, impacts environnementaux, comment on peut faire différemment, comment on peut communiquer différemment. Donc, l'idée est vraiment de pousser et de faire évoluer les modèles actuels. Alors, émergeant de ces projets, on a différents niveaux d'industrialisation, j'ai envie de dire. Donc, certains, c'est effectivement pour semer des graines, donner des idées. On a un jury exceptionnel en plus, donc avec des décideurs de l'industrie. Donc, oui, je pense qu'on leur sème des idées, des étincelles. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'ils viennent assister aux présentations et être membres du jury. Et puis, on a d'autres projets qui ont tout à fait le potentiel d'être industrialisés et qui l'ont déjà prouvé. Et aujourd'hui, enfin, vous verrez peut-être des photos, tout le monde porte le chapeau reprise. C'est bien la démonstration qu'on peut travailler différemment, et là, en l'occurrence, avec des réfugiés afghans dans un camp ici en Île-de-France. C'est difficile de juger. Moi, c'est tous mes projets, c'est tous mes bébés, enfin, c'est tous mes étudiants que j'accompagne toute l'année. Donc, tous ont leur part de... Tous les projets ont leur part d'innovation, de disruptivité à leur façon. Alors, pour les marques qui souhaiteraient intégrer ce programme, alors le premier levier, j'ai envie de dire, je vous invite à regarder pour être membre de la fondation de l'IFM. Donc, c'est au niveau des marques, c'est vraiment priorisé d'être déjà partenaire de l'école. Après, il est vrai que pour des plus petites entreprises, on prend des briefs. Et là, il faut nous contacter à l'IFM, nous proposer des sujets. Et ensuite, c'est proposer aux étudiants. Nous, il n'y a pas aucun projet qui a été imposé. C'est vraiment les étudiants qui choisissent. On fait une séance de Sustainable Entrepreneurship parce qu'on est convaincu que dans le développement durable, il faut avoir un côté entrepreneur. Et pas que être entrepreneur, mais on peut tout à fait être entrepreneur au sein de grandes marques, de grands groupes. Et donc, tous ces acteurs du changement viennent pitcher. Finalement, c'est le rôle inversé du jury qu'on a fait aujourd'hui. C'est les acteurs qui viennent pitcher devant nos étudiants. Et les étudiants adhèrent, s'ils le souhaitent, à ces projets pour le restant de leur 6 mois d'études.
Xavier Romaté, directeur général de l'Institut français de la mode.
Alors, est-ce que les marques sont les élèves et les élèves sont des consultants pour les marques? Je ne sais pas s'il faut prendre ça comme ça. L'école, c'est un lieu formidable d'expérimentation. Et dans le domaine de la sustainability, comme dans d'autres, mais dans le domaine de la sustainability, profiter de la capacité créative des étudiants, leur innocence qui fait qu'ils n'ont pas de barrière. Leur candeur, parfois, qui fait qu'ils n'ont pas de contraintes, est un formidable terreau de créativité qui intéresse les marques. Parce que les marques, quelle que soit leur puissance, leur capacité de réflexion financière, etc., se trouvent souvent confrontées à leurs propres limites. Leur histoire, on l'a déjà fait, on ne peut pas le faire... leurs propres contraintes techniques, opérationnelles. Et donc, à un moment, sur des sujets comme ça, il faut pouvoir accepter de think out of the box. Il faut accepter des choses qui sont des choses inattendues pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir être confronté à des idées qui sont des idées un peu folles, mais concrètes et qui ouvrent le champ des possibles. Et donc, c'est pour ça que ce certificat est intéressant, évidemment pour les étudiants, parce que on les oblige à être confrontés à la réalité, évidemment pour les marques, parce que ça leur ouvre des champs du possible qu'ils ont beaucoup plus de mal à ouvrir en interne. L'objectif de ce certificat, ce n'est pas un think tank qui est destiné à réfléchir. L'objectif qu'on y a assigné avec Kering dans le cadre de la chaire, c'est vraiment de confronter les étudiants à la réalité de façon à ce qu'ils puissent se rendre compte que, au-delà de tout ce qu'ils ont appris, la réalité du terrain pour faire les choses, c'est quelque chose qui est difficile, qui est complexe, et qui nécessite de franchir une multitude d'étapes. Et la pédagogie par l'apprentissage concret, c'est la meilleure façon de marquer leurs esprits, de les confronter à la vraie vie, et de faire en sorte que demain, quelle que soit leur carrière, qu'ils soient créatifs ou qu'ils soient managers, ils puissent, quand ils se retrouveront forcément confrontés aux problématiques de sustainability, ils ne se rappelleront pas de leurs cours, ils se rappelleront de leurs actions et des difficultés qu'ils ont eues à les mettre en œuvre. Et donc, il y a un effet pédagogique qui est très important. Donc, ce n'est pas un objectif de think tank, c'est vraiment un objectif très concret et très opérationnel. Oui, c'est vrai, la présence de différentes marques aujourd'hui, elle est tout à fait significative. D'abord, l'Institut français de la mode a été voulu, porté, rendu possible par les marques qui la financent, qui la soutiennent, qui collaborent, qui prennent des apprentis, prennent des stagiaires, recrutent les étudiants qui sortent. Et donc, on est un lieu de concorde parce que l'éducation est un bien beaucoup plus précieux que les batailles très fortes et très puissantes d'une marque avec les autres. Donc, et nous sommes un lieu de coopération des marques. Il n'y a aucune compétition, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a Chanel, il y a Kering, il y a Chloé, il y a Isabelle Marant. Et donc, c'est un lieu de coopération et non pas de compétition. Et c'est vrai de l'école en général qui a une position de neutralité. Deuxièmement, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu d'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est un lieu plutôt de où on met le talent, la fougue, la passion des jeunes pour la mode, pour les faire travailler sur différents sujets, dont la sustainability. Or, la sustainability, vous avez raison, c'est un sujet qui est un sujet complexe. C'est un sujet qui n'a pas une solution, qui a une multitude de solutions. Et cette multitude de solutions nécessite des expérimentations concrètes. Nous leur offrons des champs d'expérimentation. Et ces champs d'expérimentation, aussi bien Isabelle Marant que Chloé, qu'un groupe comme Kering, que Chanel, avec leur puissance, peuvent y être tout à fait intéressés. Et après ça, ils y prendront ce qu'ils y prendront, ça leur donnera des idées, ils implémenteront des choses, peu importe. Mais je tiens absolument à ce qu'ici, ça soit un lieu de neutralité au service de la profession. Et c'est comme ça que c'est perçu, et c'est comme ça que vous avez sur cette chaire, même si c'est la chaire Kering, la présentation de la chaire Kering se fait devant Chanel, devant Isabelle Marant, etc. Et ça, c'est une vraie fierté. Et c'est le signe que tout le monde considère que l'école est un lieu de neutralité au service de la profession dans son ensemble et pas d'une marque, même s'il y a une marque comme Kering qui rend ça possible, mais avec open source, c'est-à-dire et qui le rend accessible au plus grand nombre. Alors, j'ai bien aimé les projets qui sont des projets concrets, c'est-à-dire des projets où j'ai vu des étudiants faire, produire. Le premier qu'on a vu sur les leggings, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que les étudiants sont allés extrêmement loin, concrètement, dans la recherche d'un matériau nouveau, totalement sustainable, parce que recyclable, parce que sans plastique, donc avec des objectifs très clairs. Et en y associant une recherche et un travail très important sur le sourcing du matériel, le design et la scalabilité, c'est-à-dire la faisabilité, on va dire quasiment industrielle. Ils ont été très loin avec cette machine au Portugal, etc. Donc ça, c'est un premier coup de cœur parce que je trouve ça très, très intéressant. Et la deuxième chose, le deuxième coup de cœur que je peux avoir, c'est les projets à forte composante sociale. Parce que quand on parle de sustainability, il y a la responsabilité environnementale et sociale. Et le projet Respire, qu'on a vu, par exemple, qui est de vraiment contribuer à faire en sorte que le talent, le savoir-faire de réfugiés à Antony puisse être construit de façon beaucoup plus professionnelle, mis au service de produits qui sont les chapeaux que vous avez vus, etc. Donc ça, c'est une action extrêmement concrète, extrêmement puissante, parce qu'elle a une dimension sociale qui est forte. Et donc, dimension sustainable, environnementale avec le projet des leggings et Respire avec ce projet social qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému et surtout quand il y avait un certain nombre de réfugiés qui étaient avec nous dans la salle aujourd'hui.
deux étudiantes ayant pris part au challenge pour la marque Circle Sportswear.
Le projet qu'on a fait là avec le jury, donc on a travaillé en collaboration avec la marque Circle Sportswear et les designers de Casa 93 pour la création de capsules collection à partir de matières upcyclées. Donc on a récupéré les chutes de matières qui venaient de la marque suite à une des collaborations qu'ils avaient fait avec l'entreprise Saint-James et des produits finis également qu'ils avaient récupérés lors d'événements. Et le but, c'était de leur redonner une nouvelle vie, de leur retrouver une nouvelle utilisation dans l'industrie du sport, donc en gardant le côté vraiment technique et fonctionnel du produit.
Alors du coup, on a créé des accessoires, donc deux sacs, un sac pour celui qui assure et un autre sac qui est un sac à magnésie. Donc c'est quelque chose qui pour grimper, oui, pardon, pour l'escalade. Et on a également eu deux silhouettes composées donc d'un legging et d'un t-shirt avec un drapé fonctionnel rempli de poches, ainsi que pour l'autre silhouette, un short entièrement upcyclé et un t-shirt à nouveau. Donc tout a vraiment été pensé pour que le produit reste esthétique, mais aussi particulièrement fonctionnel et qu'il puisse servir pour faire de l'escalade. Alors le gisement, donc il y avait d'un côté des chutes d'une collaboration réalisée entre Circle et la marque Saint-James. Et en fait, c'était des chutes qui n'avaient pas été utilisées pour la collaboration parce qu'elles avaient des défauts, les rayures n'étaient pas forcément les bonnes. Et donc, on a récupéré ça et on a aussi eu donc, des produits finis, des t-shirts, des leggings, des brassières, des sacs, des chaussures qu'on a réutilisés et qui étaient en fait des anciens vêtements portés par des sportifs et qu'ils ont délaissés au d'un moment et qu'ils ont donnés à Circle pendant des événements.
Pourquoi j'ai choisi le projet ? Donc, parce que j'avais envie de travailler sur un projet qui mêlait à la fois l'aspect technique de l'industrie de la mode, mais également l'industrie du sport, parce que plus tard, j'ai envie de poursuivre dans cette direction et de vraiment travailler dans l'industrie du sport. Donc, voilà, c'était plus parce que pour ma passion pour le sport, la volonté de changer les choses et de faire bouger l'industrie et de combiner avec le côté mode et technicité de la mode.
Et pour répondre de mon côté, pourquoi ce projet ? Pareil que Léna, parce que moi j'adore faire du sport, donc ça me parlait tout particulièrement. Mais aussi, moi c'était plutôt pour le côté où on mêlait la créativité, la communication, le management. Et c'est quelque chose que j'ai pas forcément dans mon cursus. Donc ça me parlait tout particulièrement. Et j'avais déjà plein d'idées pour la communication, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce projet.
Alors pour savoir s'ils vont utiliser les idées, oui, on pense qu'ils veulent poursuivre. Il y a grande chance qu'on continue avec eux sur une partie du projet, ne serait-ce que présenter toutes les collections qui ont été créées donc à l'IFM et également avec les designers de Casa 93, donc dans le cadre d'un peu vente aux enchères pour vraiment présenter les différents produits upcyclés. Et après, à long terme, de ce qu'on a compris, je sais que Romain, le fondateur de Circle Sportswear, veut vraiment intégrer l'upcycling comme partie intégrante de leur offre. Et donc, ce serait de proposer aux consommateurs de rapporter des pièces pour ensuite recréer des nouveaux produits en collaboration avec les designers. Et à long terme, essayer de vraiment implémenter, appliquer, je ne sais pas si on peut dire ce mot, l'upcycling à l'industrie de la mode dans le sport, surtout.
Deux étudiantes ayant pris part au challenge pour la marque Messica.
La problématique de la marque, c'était de transformer leur écrin de joaillerie et l'ensemble de leur packaging en un packaging qui va être éco-responsable.
Les problématiques que nous avons rencontrées dans ce projet étaient liées essentiellement aux contraintes que la marque nous a mises. Elle souhaitait changer en un packaging éco-responsable, mais en changeant le moins possible. Donc ça a été la première difficulté. On a quand même réussi en répondant à leurs problématiques, en changeant petit à petit. Mais c'était ça qui était le plus difficile, absolument. Un cahier des charges très, très compliqué.
Moi, je pense plutôt... Enfin, la problématique de ce packaging, c'était le système lumineux, parce que c'est un écran qui s'ouvre et qui illumine le bijou avec un système LED. Et ensuite, c'était de changer les matériaux, de faire des propositions de différents matériaux qui puissent se rapprocher le plus d'un effet luxe tout en étant responsable d'un point de vue écologique et éthique. on a choisi pour comme solution à ce projet une proposition d'écrin en aluminium, donc qui va être monomatériel, qui va être possibilité d'être fait à partir d'aluminium recyclé et qui pourra du coup être recyclable à l'infini par derrière. C'est aussi un matériau qui nous permet de garder l'identité visuelle de la lumière qui était présent chez Messica et dans son écrin et qui compte énormément pour eux et pour leurs clients. Et que nous, on a traduit à travers en fait, le matériel principal de l'écran.
Je pense que ce qui a été important dans notre projet était non seulement étudier les co-responsabilités du packaging en tant que packaging, mais de le transformer. La clé a été de le transformer dans un objet qui dure et donc d'allonger la vie du produit et le transformer dans un porte-bijou qui durera jamais.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.